deux hommes en onde. Voici La Voix en or, Luc Lavoie.
La Voix en or du troisième homme en onde. Bonjour Luc Lavoie.
Le troisième homme en onde.
Luc, pour toi, qu'est-ce qui est plus excitant? Un débat des chefs ou l'ouverture de la saison du Canadien? Parce que pas exactement en même temps, mais...
Ouh, là, c'est vraiment une colle.
On la colle. Ouais, hein?
Si j'avais le choix entre les deux,
ouais,
je mettrais deux écrans d'un côté de l'autre.
OK, mais là, t'as pas le choix entre les deux, heureusement, parce que ce soir, c'est juste le débat des chefs. J'ai envie qu'on fasse un pool, comme au hockey.
Oui?
Ben,
ah
genre,
oui?
D'après toi, qui va gagner le débat? Parce que c'est très subjectif, mais qui d'après toi, va le mieux s'en tirer ce soir?
Qui va le mieux s'en tirer? Yves-François Blanchet.
Ah, c'est mon choix aussi, pourquoi?
Ouais, moi aussi.
Parce qu'il n'y a rien à perdre.
Exact.
Parce que c'est en français et c'est sa langue, contrairement à Andrew Scheer
et Jack Meeting.
Parce qu'il y a des thèmes porteurs à l'heure actuelle au Québec, entre les mains.
Bon, faudrait pas trop qu'il critique sur l'environnement, par exemple, parce que tout le monde est prêt à y envoyer à Cimenterie de Port-Daniel d'en face.
Ouais, mais je pense pas qu'il va aller beaucoup là-dessus. Il va aller surtout sur...
La laïcité. Ouais, exact.
Mieux connue comme étant l'identitaire. Il va aller là-dessus, le pied dans le plancher. Il va s'attaquer assez directement à Jacques Metzing parce qu'il y a du vote là qui pourrait... Il en reste plus bien de vote NPD. Là, on est dans les 7-8% au Québec.
Ouais,
les 7-8%, le Bloc québécois le prendrait. Il va essayer d'en arracher un peu aux libéraux. Les Verts sont même pas représentés, alors tant mieux d'ailleurs, parce qu'elle est plate à entendre, pas à peu près.
Ben, c'est parce qu'en français, son français est tellement cassé qu'on comprend rien.
Mais je dois dire à sa défense que récemment, je l'ai vu, je crois que c'était à Radio-Canada, à la télé, et c'est clair qu'elle a pris des cours de français, là, parce que l'accent est encore lourd. Mais la construction des phrases, tout ça, elle a fait de très, très grands progrès, mais peu importe, c'est pas important, elle n'est pas là ce soir. Alors, Yves-François Blanchet va avoir la partie facile aussi. C'est, faut le dire, Yves-François Blanchet est quelqu'un qui a du bagou, là, tu sais, qui a de la gueule, là, qui est capable d'envoyer un punch pas mal vite. Celui qui a tout à perdre, c'est Trudeau, évidemment.
Comme n'importe quel chef sortant.
Mais peut-être Andrew Scheer, parce qu'Andrew Scheer, peut-être qu'il y a beaucoup à perdre Scheer, parce que Andrew Scheer, dans les 10 derniers jours, à peu près, là, il a vraiment pris son virage à droite. Là, il annonce toutes des affaires là, que sa base conservatrice traditionnelle aime, comme on va couper l'aide à l'étranger, puis des affaires comme ça. Là. Ça le met dans une drôle de situation. Évidemment, le français n'est pas sa langue. Il se débrouille relativement bien, mais il peut pas avoir la rapidité d'un Blanchet.
Ouais.
Ou même d'un Trudeau. Ça va être...
C'est quoi sa poignée, Andrew Scheer, pour essayer de sortir du lot? C'est de s'en prendre constamment à Trudeau?
Ah, il va certainement s'en prendre constamment à Trudeau, mais il faudra pas qu'il fasse l'erreur de s'accrocher à SNC-Lavalin. Je veux dire,
ouais.
Parce qu'il y a en fait une maladie.
C'est ça, c'est fouetter un cheval mort rendu là.
Ben, c'est parce que ça pogne pas au Québec, ça pogne dans le Canada anglais, mais...
Ben, ça pogne pas mal au Québec. Je sais pas si tu te souviens, là, quand c'est arrivé, cette affaire-là, il y avait... Je faisais l'émission avec Myriam à l'époque, et puis j'en faisais une autre à Montréal avec Drainville, puis les appels téléphoniques qu'on recevait dans les émissions, là, ça nous, on pensait, nous autres, que ce serait une affaire Canada-anglais, puis ça toucherait pas le Québec. Il y avait une colère sourde de gens qui disaient... Écoutez, qui se présente devant les tribunaux, c'est des corrupteurs, c'est des corrompus, pourquoi on leur épargnerait ça, tout ça. Bon. Néanmoins, c'est plutôt, je vais plutôt employer la métaphore de Jean-François, là, c'est à savoir que c'est fouetter un cheval mort.
Ouais.
S'il s'embarque trop là-dedans, il va se faire du trouble plus que d'autres choses. Évidemment, ils vont essayer d'y barrer les pieds dans des affaires de... ce qu'on appelle le conservatisme social, donc l'avortement, puis ces affaires-là.
Ça, il peut se planter.
Il peut se planter. Et surtout, une des caractéristiques très, très importantes d'Andrew Scheer, c'est qu'il est plate comme la pluie en automne. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi plate de ma vie. Alors, il y a toujours le même sourire. Tu sais, je pense que je vous l'avais déjà cité, mais j'avais vu une caricature l'année passée que j'avais trouvée délicieuse. T'avais la bouille de Andrew Scheer. Alors imaginez-la sur un carré, il y en a neuf. OK, neuf. Des photos, pas des photos, mais des dessins côte à côte, identiques. Ils sont identiques. Il y a une belle bouille souriante. Puis en bas, c'est marqué Andrew Scheer content. Andrew Scheer fâché. Andrew Scheer triste. Andrew Scheer frustré. Andrew
Scheer. Alors, fermer la parenthèse sur le débat de ce soir, est-ce qu'il y a un os dans lequel Jack Meeting peut mordre? Pour essayer de faire bouger l'aiguille un peu, parce que même s'il semble mener une pas pire campagne, mais ça bouge pas pantoute.
Ben, il mène pas une pas pire campagne, d'abord, là. Franchement.
Ben, ton collègue Drainville disait ce matin qu'il menait, selon lui, la meilleure des campagnes.
C'est donc la preuve qu'il mène une très mauvaise campagne.
Je te dis, on va y envoyer l'extrait, hein. T'es en onde avec.
Ah, j'ai pas de problème.
Tu l'as dit d'en face, hein, Luc?
On s'en dit des pires que ça, non. Jack Metzing, son problème, c'est que, comprends-tu, il est allé... C'est lui aussi, c'est la laïcité. Nous autres, au Québec, on s'est fait un petit package raciste, puis on l'aime. Puis on prend pas de critique.
Un package raciste, Luc.
Ben, c'est carrément ça que c'est, là. C'était carrément
non, mais je sais qu'on peut pas trop parler d'identitaire avec toi, parce que ça vient de chercher dans moi, mais un package raciste.
Ben, c'est un package raciste, évidemment. Il n'y a pas d'autre raison d'avoir... Regarde, il n'y avait pas un policier qui portait... Il n'y avait pas une policière qui portait un voile. Il n'y avait pas un juge, pas procureur de la couronne, pas gardien de prison. Aucun!
Bon.
On suspend les droits dans deux chartes, la québécoise puis la canadienne, puis on lui met des restrictions. C'est un package raciste. Bon. Je vois rien d'autre. C'est okay. Juste faire plaisir à nos identitaires.
Alors, une fois que ça s'est dit, on s'en va en Chine. Parce que je veux t'entendre là-dessus, Luc.
Eux autres, ils sont bons dans l'identité.
Non, la Chine ne s'invitera pas dans le débat des chefs de ce soir.
Ils niaisent pas avec la POC.
Écoute, la Chine a célébré...
Elle devrait s'inviter. Moi, si j'étais... certainement Scheer pourrait... Comment vous avez fait, M. Trudeau, pour nous mettre dans autant de difficultés, pour ne pas dire de M, face à la Chine? Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que vous avez fait là? Comment ça, on s'est retrouvé là? Vous avez géré cette relation-là de façon tellement tout croche que ça nous plaise ou non, qu'on aime le régime ou pas, patati et patata, le fait est que c'est le plus gros marché de consommation de la Terre. Pas bien compliqué. On veut avoir accès. On est en train de se faire tasser d'un coin. Ce serait effectivement...
À cause, en même temps, du lien de proximité avec les États-Unis.
T'sais. Ouais, mais non, là-dessus, moi, celle-là, je l'achète pas. Il y avait juste à dire non. Il y avait juste à pas l'arrêter, la madame. Voyons donc. Quand on sait que c'est des questions de sécurité nationale.
Mais tu penses pas qu'il a choisi de garder un bon lien avec les États-Unis plutôt que...
S'il a fait ce choix-là, ça veut dire qu'il y a un problème de jugement. Okay. C'est pas bien compliqué, là. Le lien avec les États-Unis, il y aura jamais vraiment de très, très, très sérieux problème avec le lien avec les États-Unis parce qu'on est géographiquement lié d'un bout à l'autre, d'un océan à l'autre. Alors, c'est notre voisin, c'est tout, c'est incontournable, c'est par là que ça passe. La Chine, c'est à l'autre bout du monde, puis eux autres, ils ont comme d'autres options, hein.
Ouais.
Alors ça, ce serait un thème que je viendrais tirer d'en face parce que la Chine, c'est une des graves...
Le dossier raté.
Complètement raté de la part du gouvernement Trudeau. D'ailleurs, le dossier des affaires étrangères, en général, est un dossier parfaitement raté de la part de Trudeau, presque tout le long.
Moi, ça me fascine ce qui se passe en Chine présentement, Luc, parce que hier, donc la Chine de Xi Jinping célébrait le 70e anniversaire du régime communiste. Ils ont organisé une impressionnante marche, une espèce d'impressionnant défilé militaire. Mais Luc... Toi qui suis l'actualité internationale depuis longtemps, moi la question que je me pose c'est qu'est-ce qui s'est passé entre, je sais pas, les années 80, 90 et aujourd'hui pour que la Chine passe de l'un des pays les plus pauvres et sous-développés de la planète à l'une des plus grandes puissances mondiales? En quoi? 30 ans à peu près?
Oui. D'abord, en fait, non, vraiment, en 70 ans, parce que c'est sous la révolution maoïste que c'est mis en place, qui est devenu l'État actuel. Deux, trois choses. T'sais. D'abord, on ne sait pas, quand on vit ici, à moins d'avoir beaucoup fréquenté l'Asie du Sud-Est, que les Chinois ont toujours été les hommes d'affaires les plus efficaces, pour ne pas dire durs, de toute l'Asie. Deuxièmement, il y a des minorités chinoises dans à peu près tous les autres pays d'Asie du Sud-Est, que ce soit le Vietnam, ils les ont jetés à l'eau. Les fameux boat people qui ont abouti ici sont tous presque à 100% de l'ethnie chinoise. Les Vietnamiens, ils ont jetés à l'océan. Il y a Singapour, qui est une ville chinoise. Des villes comme Kuala Lumpur, tout ça en Indonésie, Bangkok, ce sont des villes où ce sont les Chinois qui mènent. Ce sont donc de redoutables hommes d'affaires. Deuxièmement, il ne faut jamais oublier que la population d'un pays y est pour quelque chose quant à sa puissance. Les États-Unis demeurent à ce stade-ci, sur le plan militaire certainement, la plus grande puissance mondiale, mais ils s'appuient quand même sur une population de 330 millions. Alors, tu pars avec la Chine, quand la révolution chinoise, quand Mao a proclamé la République populaire de Chine à la place Tiananmen le 1er octobre 1949, c'était un pays qui avait 700 millions d'habitants. C'était un pays où le taux d'analphabétisme était d'à peu près 85 %. C'était un pays où la mortalité infantile était une des plus élevées au monde. Espérance de vie super basse. C'était un pays où les gens qui arrivaient à manger le faisaient parce qu'ils se plantaient un potager dans un coin quelque part. C'était un pays où c'était la misère totale. Et à partir de 49, ça n'a pas été rose, hein? De 49 jusqu'à peu près à 1955-56, la Chine se repliait sur elle-même, se refermait, fermait ses frontières, n'avait des relations qu'avec l'Union soviétique. Bon. Et là est arrivée la grande révolution culturelle, ce qui est en fait les gardes rouges, puis tout ça, là, quand on s'est mis à envoyer les gens dans des camps de rééducation, toute la bourgeoisie. C'était évidemment inacceptable et c'était même monstrueux. Mais la Chine, un de ses problèmes, c'était que c'était un vieux pays qui avait bâti une gigantesque bureaucratie à travers des millénaires et qui avait réussi ou qui avait fini par se bâtir une société stratifiée, une société de classe sociale où il n'y avait pas moyen, il n'y avait aucune mobilité. Avec la révolution culturelle au prix de milliers et de centaines de milliers de vies humaines, ils ont réussi à casser ce système-là. Et à un moment donné, Deng Xiaoping est celui qui vraiment a lancé la Chine à partir du début des années 80 vers ce qu'on connaît maintenant. C'est-à-dire un système dominé par un parti communiste mais qui emprunte largement au capitalisme pour se bâtir. Et là, il y a eu, évidemment, quand tu as une dictature aussi serrée, aussi inattaquable que leur cas, tu peux te permettre des espèces de projets incroyables. Et là, ils se sont mis à mettre beaucoup, 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 beaucoup de fric dans l'éducation. On se retrouve aujourd'hui avec 90 % de la population qui est lettrée, alors qu'il était à 85 % illettrée il y a 70 ans. La mortalité infantile a rejoint essentiellement la moyenne des pays développés. Même chose pour l'espérance de vie. Maintenant, tout ça se fait parce qu'il y a au centre un parti communiste qui tire toutes les ficelles, qui a tout le contrôle sur tout. Alors, ça a donné ce que ça a donné. Et là, ben, ils sont rendus dans une période. Quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire va voir ça. Tu sais, quand les empires se construisent, d'abord, ils sont très tournés vers eux-mêmes, vers leur développement interne, tout ça. Puis, à un moment donné, ils commencent à avoir les attitudes conquérantes des impérialistes. Ce qui est le cas de la Chine à l'heure actuelle, ce fameux défilé auquel tu faisais référence, c'était une espèce de façon de montrer sa quincaillerie militaire. Parce que ce qui était important, c'était pas tant « Ah, ils ont des avions de combat. Ah, ils ont des tanks. Ah, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont des missiles. » C'est pas ça qui était important dans ce qu'on a vu hier ou avant-hier. C'est que ces avions de combat-là sont chinois fabriqués en Chine. Puis que les tanks sont chinois fabriqués en Chine. Et que c'est le propre des superpuissances que d'être capable de s'armer elles-mêmes. Alors la Chine, ce qu'elle... Puis en plus, ils viennent de lancer deux porte-avions depuis 2 ans. Je pense qu'il va en avoir un par année pendant un certain nombre d'années. Des porte-avions, faut toujours se souvenir qu'en termes militaires, c'est une arme d'assaut. Ce n'est pas une arme défensive. Un porte-avions, c'est fait pour projeter puissance à l'étranger. Alors donc, ils commencent à avoir ce désir-là. Et plus ils avancent, plus ils deviennent riches personnellement, individuellement, et plus les demandes de la population montent. C'est comme le cas de tous les pays, comme le nôtre, quand il s'est développé. Et là, ils commencent à manquer. Ça leur prend. D'abord, ils sont assoiffés d'énergie. Ils ont besoin de quasiment toute l'énergie que ça a à terre pour faire marcher cette machine manufacturière-là. Ouais. Ils ont un besoin maladif d'à peu près toutes les ressources naturelles. Ils ont d'ailleurs presque carrément acheté le continent africain pays par pays pour mettre
ils mettent de l'argent partout. Ils sont en train de rentrer dans toutes les économies, mais ils investissent dans
Tous les pays. En Afrique, c'est particulièrement frappant. Là. Ils sont rentrés là, comprends-tu? Première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils offraient un cadeau à la population. Ils construisaient un hôpital ultra moderne et puis ils construisaient un stade de soccer d'à peu près 50 000 places. Puis là, ils s'installaient puis ils disaient aux leaders africains, écoutez, nous autres, là, les affaires de, on a besoin de rapports sur le niveau de corruption, puis patati, on s'en balance, comprends-tu? Nous autres, ce qu'on veut, c'est de payer pour t'acheter tes ressources naturelles, puis on va créer de l'emploi ici localement, puis on va mettre nos ingénieurs à la tête des équipes. Alors, ils sont en train, donc, ils ont acheté, presque acheté le continent africain, ils sont en train de créer un nouveau continent. Il a toujours existé, mais pas... Comment dire, dans le pratico-pratique, un continent qu'on va appeler l'Eurasie, qu'on commence déjà à appeler l'Eurasie, parce que leur projet titanesque à l'heure actuelle, c'est de refaire ce qu'ils appellent la route de la soie.
Ouais.
Mais la différence étant que ce sont des trains à grande vitesse, ce sont des avions, des aéroports, des infrastructures extraordinaires, des ports de mer, tout ce que tu veux, tout ce qu'il y a de plus moderne. Alors, la Chine arrive à un point de son histoire où, d'abord, dans 2 ans, elle aura dépassé, le PIB de la Chine aura dépassé celui des États-Unis. Et là, ils entrent dans la zone où ils commencent à montrer des muscles, à montrer qu'il faut les respecter. Et plus encore, le Canada l'a appris à ses dépens, pas à peu près, là, t'sais.
Très intéressant. Merci, Luc. La prochaine fois, on se parlera peut-être des conflits qui dégénèrent à Hong Kong, parce que c'est pas terminé. Mais c'est le temps qu'on avait, malheureusement, qui est terminé.
Ça tente, Paul Raphaël, on peut faire un petit bout de plus sur notre package raciste.
Non, ça va être correct. Okay. Non, ça me tente pas. OK, merci, Luc. Salut, bye. Luc, la prochaine.